France Culture.
Je me rappelle d'un personnage très sympathique, assez abordable, habillé simplement.
David Girard, le prince du business gay.
Tout ça, c'est entre 1980 et 1990, le jour de sa mort.
Un documentaire de Yves Deloison et Nathalie Salle, épisode 2, une décennie sous haute tension. Années 80, tout bouillonne, surtout à Paris. Pour la population gay, c'est une époque de conquête, de fierté, mais aussi d'ombre qui s'annonce. Pour moi, tout se joue dans les quartiers du centre. J'ai 18 ans et je découvre la vie nocturne, des lieux de liberté, de rencontres, d'excès. Aujourd'hui, pour comprendre ce que fut ce Paris-là, il suffit de s'y promener. Dans les rues, derrière les façades, dans les bars et les boîtes aujourd'hui disparues, les traces de cette époque résonnent encore.
Où est-ce qu'on arrive là, Hervé Latapie ?
On arrive à un endroit crucial au début des années 80. C'est rue de la Ferronnerie. C'était le Broad. Et c'était vraiment la première discothèque grand public, enfin grand public, mais en tout cas entrée gratuite. Et là, voilà. Et là, c'est le début du populaire. Après, Haute Tension a pris le relais, enfin voilà, Haute Tension il a fait encore plus populaire quelque part dans l'état d'esprit. Quoi.
Haute Tension, c'est à peu près un an ou deux après le Broad.
Le 80.
Le Broad, c'est Broadway en fait.
Ouais. Le Haute Tension, lui, va ouvrir en 1983.
Le narratif de David Girard, assez rapidement, c'est quoi ? C'est l'ancien tapin qui ouvre un salon de massage, qui à partir de là ouvre un sauna, qui à partir de là ouvre une boîte, qui à partir de là lance un journal, qui à partir de là ouvre une autre grande boîte de nuit, puis après qui meurt. C'est un peu ça l'histoire.
On l'a traité d'affreux capitaliste, on l'a traité de tous les noms, Giokengen le traitait de petit limonadier, mais n'empêche que, voilà quoi, lui qui était assez méprisé par les militants, c'était le commerçant, le capitaliste, etc. Et lui cherchait vraiment à avoir une reconnaissance, quoi. Il cherchait à avoir une reconnaissance dans le milieu gay.
Il commence à passer à la télé parce qu'il y a un reportage sur Antenne 2 qui parle justement de l'apparition du quartier gay à Paris. Et dans le quartier gay à Paris, il montre David Girard.
Tim Madescler, client du Haute Tension, ex-journaliste dans la presse gay.
Et je ne sais pas si c'est pas celui-là où on le voit dans sa baignoire en train de raconter des trucs à la con. Voilà. Et c'est vrai que la façon dont on va le présenter à cet endroit-là, elle est un peu à contre-courant de ce qu'on pourrait imaginer de la culture politique gay de l'époque. Quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression d'avoir Bernard Tapie un peu plus mignon. Ce qui a peut-être beaucoup choqué, entre guillemets, et c'est en lien aussi avec les changements sur la perception de l'homosexualité, grosso modo, c'est un guap, un mec des milieux populaires, qui, c'est des gens qui ne devraient pas sortir de leur milieu. Donc lui, il est sorti de son milieu. Et qui fait son business. Et ça, je pense qu'avant, c'était beaucoup plus difficile. Et que dans les années 80, c'est en plus monté et montré dans un quartier qui vit de ça et qui exprime ça. Et qu'effectivement, ça surprend.
Il a été, dans toutes les histoires LGBT françaises ou produites par des auteurs ou des observateurs français, souvent réduit à ce personnage avatar du capitalisme des années 80.
Colin Giraud, sociologue.
C'est un personnage ambigu et dont l'interprétation 40 ans ou 50 ans après est toujours un peu ambiguë. La charge de plusieurs militants de l'époque est assez violente et virulente face à David Girard. Guépier critique régulièrement le personnage, le tourne en dérision, l'assimile au business qui voudrait récupérer la population homosexuelle. Et de la même manière, la présentation qui en est faite dans le livre de Frédéric Martel est particulièrement virulente, hein, puisqu'on lui reproche tour à tour son opportunisme financier, sa bêtise, mais aussi son racisme, etc., etc.
Ah bon, d'accord. Bah alors, si qu'a dit qu'il était raciste, mais si qu'a dit ça, c'est n'importe quoi.
Louab, ami d'enfance.
Ça a été écrit dans un livre qui s'appelle Le Rose et le Noir de Frédéric Martel.
À Paris, le phénomène backroom prend des allures de défi commercial. Tapin des brouillards, lui-même fils de prostituée, David Girard a fait ses premiers pas rue Sainte-Anne et revendique 13 000 passes. Son cas serait simplement anecdotique s'il n'était devenu le patron de la drague organisée et ne s'était spécialisé comme Cadino au cinéma dans les lieux hard. David Girard va flatter le goût du sexe immédiat et le jeunisme. Au-delà du personnage de David Girard et de son culte insensé de la personnalité, son parcours en dit long sur l'état de vénalité de la rue Sainte-Anne au début des années 80, comme sur l'état de misère affective des clients qui l'a honoré. Le rose et le noir, Frédéric Martel.
C'est un milieu où il y a eu beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de gens qui étaient jaloux de sa réussite, dans le milieu gay.
Saïd, ami d'enfance.
Et qui colportait des conneries, mais bon, c'est comme partout. On ne peut pas leur en vouloir. Ils sont inconnus. Vous avez quelqu'un qui est tout jeune, qui arrive, qui cartonne, que tout le monde aime. Bon, ben, y en a qui deviennent un peu aigris, quoi. Donc, ils disent des choses, voilà.
Tant qu'il est patron de boîte de nuit et qu'on peut faire aller voir dans sa boîte de nuit, je pense que tout va bien. S'il a un sauna nocturne, pareil, tout va bien. S'il se met à faire de la presse gratuite, alors là, ça commence à aller moins bien parce qu'il voit de la pub au guépier. Honnêtement, hein, c'est quand même ça le problème. S'il monte des télématiques qui fait faire de l'argent, là, c'est pareil, il fout un peu le bordel. Et s'il se met à avoir un discours dans les médias qui consiste à dire que c'est bien de réussir dans la vie, alors là, c'est effectivement, ça devient l'homme à abattre. C'est un peu ça, quand même, le truc. Je pense pas que David Girard soit un combattant de la révolution sociale. Mais je pense que, oui, effectivement, il s'en est pris plein la gueule parce qu'il correspondait pas du tout à ce qu'on attendait d'un militant gay, entre guillemets. Très honnêtement, je n'ai jamais entendu des gens dire beaucoup de mal de David Girard quand ils le connaissaient. Okay, et j'ai jamais vu dans ses attitudes ou prises de position qu'il y a eu quoi que ce soit de méchant ou d'agressif ou de salaud dans la vie. L'image de David Girard, c'est pas celle d'un méchant garçon.
Le Haut de Tension, établissement ouvert par David Girard, possède au départ une backroom et c'est ce qui explique aussi une partie du succès de cet établissement parce que c'est une nouveauté, c'est une révolution pour les gays parisiens et franciliens que d'avoir un établissement de nuit dans lequel, de façon protégée, safe, on dirait aujourd'hui, on peut tranquillement s'adonner à la danse, à la consommation d'alcool entre gays et aussi à des pratiques sexuelles sur place, ce qui rend le lieu à la fois un peu sulfureux, un peu fascinant et excitant pour une clientèle de nuit. Alors David Girard, on lui a beaucoup reproché son faible militantisme ou sa dépolitisation. Il apparaît un petit peu éloigné de cette première génération de patrons d'établissements gays du début des années 80. Donc il y a une génération là de patrons qui sont à la fois des patrons et des individus pas très éloignés des milieux militants de la fin des années 70 en France, qui ont des amis dans les groupes militants, OQR, OGLH, etc. Il est plus jeune, nettement plus jeune, et le type d'établissement qu'il va ouvrir l'éloigne aussi de cette dimension politique en privilégiant d'un côté la dimension très sexuelle à travers l'ouverture des saunas, et de l'autre, un établissement, le Haut de Tension, qui est une discothèque, hein, qui disposera notamment d'une backroom, d'un lieu de pratique sexuelle.
C'était qui ses proches, justement, ses vrais proches?
Il y a eu ceux qui venaient de Saint-Ouen, donc il a connu jeune, donc Louab, qui l'accompagnait David dans plein d'endroits. Et ensuite, quelques personnes qu'il a rencontrées au tout début de son ascension, un petit peu, les Sébastien Dietrich, les gens qui ont travaillé dans les journaux de presse, au bureau là-bas, puisqu'il les côtoyait beaucoup. Et tous ces gens-là étaient ses amis, finalement. Tous les gens qui ont travaillé avec lui plusieurs années. Il aimait bien s'entourer de gens intelligents. Et il était avec Zaza Dior justement parce que Zaza Dior était très intelligente et pleine d'humour. C'est pour ça qu'elle est restée des années avec lui. Elle a été son employée, elle a travaillé pour lui. Et elle était tout le temps présente dans toutes les soirées, dans toutes les fêtes, dans tous les dîners, peu importe.
C'est qui Zaza Dior?
Zaza Dior, c'était une... C'est un phénomène. C'est un phénomène de l'époque, quoi, qui traînait un peu dans les nuits parisiennes, qui faisait un peu partie de la jet set, qui avait beaucoup de contacts, un réseau important. Donc, ça intéressait David. Parce qu'il se servait aussi les gens qui étaient autour de lui pour agrandir son réseau, pour... Voilà, donc on avait l'occasion de rencontrer plein de monde à l'époque, de toute façon, hein, que ce soit les, je sais pas, dans des soirées, les Chazot, les Briali, les Thierry Le Luron, tout ça se connectait, se connaissait, se fréquentait. Et la Zaza faisait partie de ce truc-là, elle connaissait énormément de monde, donc elle a fait connaître beaucoup de monde à David. Parce qu'il avait besoin, dans ce milieu-là, vous imaginez qu'on a besoin de contacts pour pas être embêté, pour que les affaires tournent. Et il avait tout ce qu'il fallait, quoi. À tous les niveaux. J'en dirais pas plus.
Il me disait tout le temps, mais tu passes quand même, essaie de passer. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Soit il est amoureux de moi, il veut pas me le dire. Il y a un moment, il faut que je me fasse une raison, hein, c'est pas possible. Soit il y a autre chose. Et je venais de comprendre qu'avec toutes les histoires que je lui racontais de ma vie à moi, moi j'ai eu une vie, j'ai fait la boxe, je fréquentais des quartiers difficiles et j'avais une relation, on va dire, autour de moi de voyous connus. Gilles, son ami, son frère, comme des postiches, qui a fait tous les braquages, etc. Moi, mon meilleur ami Luc, frère de Bernard Guillon, celui qui a enlevé le baron en pain. Sauf que nous, on n'a rien fait, nous, c'est pas. Sauf que on a emmené une réputation. David avait vraiment beaucoup d'intérêt, finalement. En fait, qu'il ait un entourage quand même assez mafieux. Même s'il n'en faisait pas partie. Lui, il dit, si je suis entouré de gens qui font partie du milieu, si ça peut me protéger mes arrières, si ça peut me permettre d'aller plus loin dans mes projets sans qu'on vienne me menacer. Et cette ambiguïté qu'il avait laissé créer depuis les magazines et depuis le sauna avait dû payer.
Salut, c'est David.
Salut, c'est Zaza.
Zaza. Nous revoilà ensemble pour Lune de Fiel.
Lune de Fiel.
Wow. Du sexe et du cœur.
Du cœur.
Tous les mardis, de 22h30 à 00h30, Lune de Fiel sur
Future Génération.
Il aimait Zaza Dior pour ce qu'elle était. Travelo, journaliste, c'est la classe. Il a proposé à Zador de faire la radio.
C'est Lune de Fiel, 94.4 sur Future Génération. Les numéros de téléphone tout de suite, 43 57 69 70.
Et le but était de raconter votre fantasme. Les plus fous, moi je prenais les mecs ou les femmes, elles m'appelaient. Et des fois c'était trop. Moi un jour il m'a dit, viens, ça fait un hétéro. Je dis, David, j'y arrive pas. Donc moi, je te propose, je continue ce que je fais, moi ça me plaît, je te les filtre et je t'envoie ce qu'il y a de mieux.
N'oubliez pas mettre votre casque.
Oui, parce que ça me décoiffe, j'ai fait une mise en pli aujourd'hui.
Ah, très bien.
À 39,90, c'est de songe.
Oui, un bon caramel sur les cheveux, c'est une mise en pli autre fou que vous avez fait sur votre log.
Je vais parler de vous, hein, parce que vraiment ça tient debout là.
Il y avait des petites facettes d'activités diverses.
Mais tout de suite, commençons par une chanson, Love Affair, David Girard, en vous souhaitant un très bon moment avec la Via Platon.
Love Affair, mais White Knight, il a fait un truc où c'était que de la techno, de la house. Il chantait pas, c'est parfait, c'est pas mal. Mais c'est pas du niveau non plus, tu vas pas faire le top 50 avec ça. Hein. Mais quand il a commencé à chanter, ouais, Love Affair, j'ai dit non, David, je suis sûr, David, tu sais pas chanter. Et il m'a dit, mais écoute, viens, on va voir, on va enregistrer. On avait loué les studios de Charles Aznavour au Palais des Congrès. On avait un truc, c'était le top. On avait les meilleurs. On avait le gratin du gratin. Je dis, David, mais d'où tu les as trouvés, ceux-là? En fait, tout le monde voulait travailler avec David. En fait, ce qu'il voulait, il voulait quoi? Il voulait passer à la télé. Il voulait passer dans les discothèques. Il voulait chanter sur scène. Il voulait faire. Il a fait. C'était nul, mais on s'en fout.
Sur la question de la Gay Pride, on appelait ça encore la Gay Pride à l'époque, il a repris, il a financé à travers ses activités un mouvement qui était en train de s'effondrer.
Oui, à partir du milieu des années 80, quand le sida est arrivé, c'était terrible, hein, parce que la plupart des militants étaient malades, les gens disparaissaient. Et puis, d'autre part, on s'occupait de nos amis malades.
Donc on n'avait pas forcément le temps de militer de la même manière qu'avant, quoi. Et effectivement, je crois que c'est en 88 que la marche n'allait pas exister et puis qu'il l'a repris, effectivement, avec des chars commerciaux, tels qu'un peu c'est devenu par la suite, quoi. C'est-à-dire des sonos, voilà. Et du coup, ça, bon, il a supporté ça. Et il était assez, assez mécontent qu'il ne soit pas reconnu en tant que militant, quoi. Parce que lui, il se considérait comme un commerçant militant. Bon, moi, je dois avouer que moi, c'est pareil. Finalement, j'étais un commerçant après, hein, mais j'étais militant aussi. Mais voilà. Donc, oui, je crois que de par les moyens qu'il avait, de par également l'ouverture de ses établissements, la popularisation en quelque sorte des établissements, il a joué un rôle, quoi.
Les années 80, pour moi, c'est vraiment un tournant. Enfin, je dis pour moi, c'est un tournant parce que c'est le tournant de ma vie, puisque je passe de l'adolescence à l'âge adulte. Donc évidemment, c'est un tournant pour moi personnel. Mais je pense que d'un point de vue plus global, le tournant des années 80, c'est une forme de mise à distance des années 60-70 et la projection dans un nouveau système social, en tout cas pour les gays, qui est plus sur la honte, hein, ou qui est plus sur forcément être relégué dans des trucs sordides, forcément malheureux, l'homme blessé, quoi, c'est la fin de l'homme blessé, pour arriver à un truc plus solaire, plus rayonnant, plus facile. Je pense qu'on le vit vachement comme ça à l'époque. Donc il y a un très fort rejet, et dans ce lot-là, c'est quand même dans les années 80, donc il y a aussi un peu la fin des illusions utopistes des années 70, donc ça va avec.
On peut dire deux mots sur l'homme blessé, ce que ça représente.
L'homme blessé, je l'ai vu, j'avais 17 ans, 18 ans.
Tu veux y aller ? Non, faut pas y aller. Non, c'est pas pour toi.
On aime beaucoup Jean-Yves Langlade, le tournoi de journaux est magnifique, la mise en scène de Chéreau est admirable, les ambiances sont remarquables. Mais mon Dieu, ce que c'est glauque, et mon Dieu, ce que c'est horrible, et mon Dieu, en fait, quand je le vois, qu'est-ce que c'est con, grosso modo. C'est un peu dur, mais en fait, c'est vraiment ça. Et pourtant, c'est un scénario de Guibert, mais finalement, c'était tout un truc dont on a, nous, pas voulu. L'homme blessé, ça sort au moment où on commence à comprendre que le sida est là. Mais il n'est pas là, il est très 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 loin. C'est-à-dire que, grosso modo, on a une image de ce qui se passe dans des chiottes, du machin un peu sordide, sur un mode de érotico, porno, machin, qui date des années 40-50, avec des gens, le fameux Jean-Hugues Langlade ou Maison Journaux, qui, eux, sont dans une situation non pas de cela, mais en fait, sans le savoir, sont déjà dans une situation de VIH, de sida, que eux considèrent comme étant un truc d'Américain, ou un truc de je sais pas quoi. Vous voyez ? Moi, j'ai été contaminé par le VIH très tôt, et probablement à peu près à ce moment-là. Ça veut dire que quand je vois l'homme blessé, quand je regarde la représentation des homosexuels dans l'homme blessé, la position de Jean-Hugues Langlade, le personnage de Jean-Hugues Langlade dans l'homme blessé, c'est moi. Et moi, à ce moment-là, mon problème, c'est que je deviens séropositif. Mais je ne le sais pas. Mais si vous regardez ça, c'est quand même un truc très significatif, à mon avis, de l'époque. C'est qu'il se passe un truc, on ne le sait pas, mais il se passe le truc vraiment.
Pas un seul, plus un seul des 50 États des États-Unis n'est désormais épargné par le sida, puisqu'un cas vient d'être détecté sur le territoire de l'Idaho, où cette maladie n'avait pas encore pénétré. En France, dans son édition à paraître demain, l'hebdomadaire homosexuel Le Guépier publie une enquête réalisée avec le CNRS auprès de 1000 homosexuels français. Près de 60% de ces homosexuels interrogés affirment n'avoir rien changé à leurs habitudes sexuelles malgré toutes les informations données sur le sida. Mais tout de même, près de 53% d'entre eux prennent désormais des précautions. Interrogé par Hélène Cardin, Hugo Marsan, rédacteur en chef du Guépier, reconnaît avoir longtemps hésité avant de réaliser, surtout avant de publier une telle enquête.
Notre hebdomadaire a beaucoup attendu avant de présenter à ses lecteurs qui sont concernés au plus haut point par le sida. À 80% des malades, ce sont des homosexuels. Nous avons attendu parce que nous ne savions pas très bien comment présenter ce thème assez dramatique. Nous avons pensé aujourd'hui qu'il fallait le faire, peut-être contre nos lecteurs, voyez-vous, même si nous y perdons quelques lecteurs, car il y a chez notre lectorat une certaine inquiétude à regarder en face la maladie.
Sur la question du sida, David Girard,
je dirais, ressemble à une partie de sa génération. C'est-à-dire que, alors que les premières découvertes scientifiques, les premières alertes médicales au début des années 80 apparaissent aux États-Unis, puis en France, autour de ce nouveau virus et cette épidémie lancinante, mais déjà bien installée dans les populations homosexuelles, au moment où cette épidémie en est à ses débuts. Et comme d'autres institutions, populations, groupes, acteurs de l'époque, il y a une forme de méconnaissance, désinformation, d'innocence et de naïveté, on pourrait dire, dans les premiers temps, qui amène à des réactions, je dirais, tardives ou à des minimisations de la question et du problème du sida. Mais j'allais dire, à l'époque, c'est le cas de nombreux acteurs. C'est d'ailleurs ce retard un problème qui va concerner aussi les autorités politiques en France. La santé publique et l'État met du temps à réaliser, à mettre en œuvre, à décider d'un certain nombre de choses, alors même que les alertes médicales sont déjà bien lancées en 85-86. Ça n'est que à la faveur de protestations, de revendications, d'actions militantes, du travail d'ACT UP, etc., que la santé publique va être obligée et contrainte et amenée à véritablement prendre la mesure du problème. Et donc David Girard, comme d'autres de sa génération, a d'abord, je dirais, été d'une certaine manière aveugle ou n'a pas compris, finalement, ce qui se jouait dans la naissance et le développement de cette épidémie.
Il y a d'abord eu l'ascension, et pendant l'ascension, il y a le sida qui est arrivé. Donc au début, on ne sait pas ce que c'est. Les gens parlaient, c'était un châtiment de Dieu, c'était une maladie qui touchait que les gays, c'était... Donc au début, on était vraiment dans le flou. Donc les gens n'allaient pas arrêter de travailler pour ça. Ils se disaient juste, tiens, il y a un truc qui arrive là, qui est bizarre, mais on n'en savait pas plus. Par contre, dès qu'on a commencé à en savoir plus, David, là, il s'est réveillé, quoi. Au début, bon, il était comme tout le monde, et lui, il s'occupait de ses affaires, et puis il voyait que ça arrivait, mais il savait pas trop ce que c'était. Il en parlait beaucoup avec ses équipes, avec nous, en privé. On a été dans les premiers à distribuer des préservatifs, du gel gratuit dans les établissements, alors que c'était interdit, c'était pas autorisé à l'époque. Il a fait pas mal de réunions, il a fait pas mal d'encarts dans ses magazines, il en parlait. Il était concerné quand même, il était concerné.
Alors là, cette image, c'est un moment particulier.
Ah, cette image, c'est dans les derniers moments de la vie de David. C'était quelques temps avant son décès, avant qu'il aille à l'hôpital et qu'il y reste. Là, il avait déjà fait des séjours à l'hôpital, mais il était rentré. Il était très amaigri, il est en survêtement, il est avec son chien qu'il adorait. C'est le dernier moment, ça, c'est avant l'hôpital et le dernier voyage.
Vous vous souvenez du moment où il l'a formulé ?
Il l'a su, mais il n'en parlait pas au début. Il n'en parlait pas, il le savait, mais il n'en parlait pas. Et quand il a commencé à être malade, là, il en a parlé un peu. Mais avant, il était très pudique, il était très, il voulait pas en parler, quoi. Tant qu'il se portait bien, il n'y avait pas de... Comme on ne savait pas exactement ce que c'était au début, on ne savait pas si ça se soignait, on savait qu'il y avait des morts, qu'il y avait des... Mais bon, tant qu'on n'est pas concerné, on ne se doute pas de... Voilà. Ça a été très rapide. Il a été à 100% jusque quelques mois avant sa mort. Tant qu'il était valide, ses affaires étaient conduites comme d'habitude.
Quand on s'est séparés, il était malade. Il avait le sida. Et j'ai monté une société de location d'outillage. Et il m'a dit, mais on l'a fait ensemble. J'ai dit, d'accord, on l'a fait ensemble. Mais j'en veux pas de ton pognon, je fais tout seul. Il m'a dit, non, mais je sais, mais c'est juste pour qu'on soit associés. J'ai dit, d'accord. On voyait bien qu'il était, il maigrissait, il commençait à souffrir. Il était peureux de se dire, c'est la fin. Et je me rappelle un jour... Je vais chez lui, dans le 19e, et on me dit, non, il est à l'hôpital. J'ai dit, pourquoi il ne m'a pas prévenu ? Elle me dit, non, mais il ne voulait pas. Je dis, ok, je file à l'hôpital, j'arrive, je le vois, et je vois bien qu'il est presque au bout. Et je lui dis, ça va, David ? Il me dit, ouais. Je lui dis, mais tu aurais dû me dire. Il me dit, non, mais je ne veux pas que tu me vois comme ça. Je lui dis, d'accord, je comprends. Mais moi, jusqu'au bout, on l'a fait l'histoire. Il me dit, ok. Et j'ai perdu beaucoup de monde, des potes, des amis. Mais il n'y a que lui qui m'a fait des larmes. Il est où son caveau? Il est là-bas. Celui qui est couleur chocolat. Et ils ont mis une photo de lui quand il était môme. Voilà. Et Girard, donc, là c'est Alphonse, le grand-père. Sa mère, on la voit pas parce que sa mère, pas de nouvelles. On l'a pas. Donc elle n'est pas venue se faire enterrer ici. Il y a Suzanne, la grand-mère, et David. Ouais, 1990. Donc ça, c'était des photos qu'on faisait quand on était à l'école. Tous les ans, il y a un photographe qui venait et on faisait la photo. Et je reconnais très bien le coup de peigne de merde qu'on pouvait te faire parce que le photographe, il s'en fout, lui. Il prenait son peigne, il te mettait la mèche et on faisait la photo. Et moi, je me suis dit, mais putain, pourquoi toutes les photos d'école, j'ai cette coupe de merde à chaque fois? Mais bon, pas que moi, tout le monde. C'est vrai, non?
Il a un regard très, très vif, là, très malicieux presque, non?
Ouais, mais je pense qu'il en jouait, tu regardes sur les magazines, surtout. C'est un séducteur, ok? Il essayait d'avoir toujours ce petit regard brillant. C'était un mec sympathique, hein? Il a toujours été... En fait, on peut presque rien lui reprocher. Hein.
Il n'a pas non plus capitalisé, j'allais dire, politiquement ou de façon militante ni associative sur cet empire ou ce petit empire commercial. Et c'est probablement ça qui rend sa trajectoire ou sa figure un petit peu atypique dans le paysage français, c'est-à-dire un homosexuel visible, relativement connu à une échelle au moins parisienne, sans véritable message ou revendication politique. Ce qui le rend un petit peu exceptionnel de ce point de vue par rapport à ses congénères ou les hommes gays de sa génération. Et puis, c'est aussi une trajectoire fascinante et tragique, puisque finalement, elle s'interrompt très tôt. Il décède en 1990 du VIH, donc il est aussi une figure exemplaire, on pourrait dire, d'une génération de jeunes hommes gays parisiens qui ont été foudroyés ou fauchés à 30 ou 35 ans par une épidémie qu'ils n'avaient probablement évidemment pas anticipé ou pas tout à fait vu venir.
Il était sûrement optimiste. Il pensait qu'on allait trouver quelque chose. Et de fait, on a trouvé quelque chose pas longtemps après, la trithérapie. À quelques mois, il était vivant. Et pour beaucoup, il y en a beaucoup qui sont morts dans les années 90, dont Zaza, je pense, qui est mort par là aussi, Zaza Dior. Et quelques mois après, il y avait la trithérapie qui arrivait et c'était... il était sauvé. Une fois David plus là, il n'y avait plus d'affaires. Les affaires, c'était David. C'était le personnage central. Donc s'il n'y a plus David, il n'y a plus d'intérêt. Quand David est mort, la fête est finie. Voilà, tout simplement. La fête est finie.
C'était David Girard, le prince du business gay, épisode 2, une décennie sous haute tension. Avec Colin Giraud, sociologue, auteur de Quartier gay aux presses universitaires de France, Hervé Latapie, fondateur de l'association Paris Gay Village, Tim Madescler, Saïd et Louab. Prise de son Hervé Dubreuil, mixage Claire Levasseur, documentaliste Ina Samia Jedi, documentaliste Marion Guilaine, chargée de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin, un documentaire de Yves Deloison réalisé par Nathalie Salles.